L'agglo en scène. Nouvelle direction à la culture. Renouvellement dans le monde culturel à Montpellier. L'Opéra et Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon ainsi que le Théâtre National des 13 Vents ont vu arriver leur nouveau directeur début janvier. Valérie Chevalier-Delacour et Rodrigo Garcia présentent leur projet pour ces deux grandes institutions culturelles soutenues par Montpellier Agglomération.
Interview de Valérie Chevalier-Delacour. Valérie Chevalier-Delacour, 49 ans, est la nouvelle directrice de l'Opéra et de l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Après l'École d'art lyrique de Paris, Valérie Chevalier-Delacour mène, de 1986 à 1999, une carrière de chanteuse lyrique en Europe. Elle réside plusieurs années aux États-Unis où elle obtient un MBA de management culturel avant de devenir agent d'artiste en créant l'agence Standing Ovation en 2000. À partir de 2004, à l'Opéra National de Lorraine, elle exerce des missions de gestion en tant que directrice adjointe. Parallèlement, elle encadre de jeunes chanteurs et participe au jury de concours internationaux. Pourquoi avez-vous postulé à Montpellier ?
L'Orchestre de Montpellier a une bonne réputation et il dispose de deux belles salles avec de grandes fosses où l'on peut jouer tout le répertoire. J'y ai vu de très belles œuvres. Montpellier m'a aussi attirée pour son offre culturelle complète avec l'opéra, mais aussi la danse et le théâtre, sans oublier la qualité de vie.
Qu'avez-vous fait en arrivant ?
J'ai assisté au concert du Nouvel An. J'ai rencontré les musiciens, les membres du chœur et le personnel, ainsi que les associations de spectateurs. Je veux renouer avec l'esprit d'équipe autour d'un projet artistique commun. Je souhaite apaiser les tensions. Autour de moi, je sens des gens motivés en attente d'un nouvel élan.
Comment va se construire la programmation de la saison 2014-2015 ?
La programmation, telle qu'elle a été préparée par Jean-Paul Scarpita, ne sera pas remise en cause, mais il y aura des ajustements au niveau des plannings. Je dynamiserai la recherche de coproductions nationales et internationales, mais aussi des coproductions avec le Centre National de la Danse ou le Théâtre National des 13 Vents. L'Opéra Junior bénéficiera aussi de davantage de moyens pour sa production annuelle.
Au niveau artistique, où vont vos préférences ?
L'ensemble du répertoire sera abordé. Je pense au baroque, encore assez inexploité. Bien sûr, les classiques comme Mozart seront programmés. Je suis très intéressée par la relecture d'opéra par de jeunes artistes venant d'horizons différents, comme l'a fait Benjamin Biolay avec le couronnement de Poppée de Monteverdi. Le public de l'opéra n'est pas fermé à des versions contemporaines, il a aussi envie de nouveautés.
Ne faut-il pas conquérir de nouveaux publics ?
L'Orchestre et l'Opéra de Montpellier Agglomération ont un public fidèle, mais il faudrait l'élargir pour toucher les étudiants et les jeunes actifs de tous les milieux. Cela passe par la programmation. Les opéras en anglais, comme le Candide de Bernstein que nous avons programmé à Nancy, attirent beaucoup les jeunes. Pour les toucher, il faut aussi développer la communication sur le web et les réseaux sociaux. On pourrait aussi diffuser les grosses productions sur des médias régionaux, imaginer des petits plus aux concerts, revoir les horaires, sans oublier l'action culturelle sur tout le territoire en direction de tous les publics. L'accès à l'Opéra Junior, notamment, sera élargi aux jeunes de tous les quartiers et de toutes les communes de l'agglomération.
Interview de Rodrigo Garcia.
Rodrigo Garcia, 49 ans, est le nouveau directeur du Théâtre National des 13 Vents. Né à Buenos Aires, Rodrigo Garcia émigre en 1986 en Espagne, où il fonde la compagnie La Carniceria Teatro. Proche de la performance, son théâtre avant-gardiste et engagé trouve un bon accueil critique en France, qui le découvre en 1999 avec « Connaître des gens, manger de la merde ». Il a collaboré notamment avec le Centro Dramatico Nacional en Espagne, le Festival d'Avignon et la Biennale de Venise, et ses spectacles sont programmés partout en Europe. En 2009, il a reçu le prix Europe pour le théâtre Nouvelle Réalité. Pourquoi avez-vous postulé à Montpellier ?
Je n'ai jamais fait un plan de carrière pour prendre la direction d'un théâtre. J'ai choisi d'être un créateur indépendant et je ne voulais être conditionné par aucune structure. À 25 ans, je voulais montrer mon travail. Aujourd'hui, je suis plus à même de mener un projet plus vaste et de montrer le travail des autres. Montpellier est proche de la Méditerranée et de l'Espagne. C'est une ville jeune et depuis très longtemps, la programmation théâtrale y est plutôt traditionnelle. C'est donc un endroit parfait pour un projet plus contemporain. Ce qui est important, c'est le risque. Ça peut mal tourner.
Vous prévoyez de bousculer le public montpelliérain ?
Ce n'est pas mon intention. Les spectateurs auront l'opportunité de se confronter à des spectacles auxquels ils ne sont pas habitués, mais je ne cherche pas le choc ou le conflit. Je cherche la découverte et la nouveauté. Je suis curieux.
Comment voyez-vous la programmation de la saison prochaine ?
Au niveau esthétique, je ne fais pas de grande distinction entre la danse, la performance et le théâtre. À moyen terme, je veux trouver des artistes intéressants et les accompagner dans leur production. Nous aurons des événements périphériques, 3 cycles autour de la musique contemporaine, de la musique électronique et du spoken words. C'était clair dans le projet que j'ai présenté. Je ne vois pas d'urgence sociale et politique à jouer des classiques. Je pense qu'il faut donner à écouter la voix et la pensée d'auteurs contemporains.
Travaillerez-vous avec des artistes de la région ?
Je dois d'abord les connaître. On va les rencontrer, que ce soit pour la programmation ou pour des composantes plus expérimentales du projet. Ce serait génial de repérer des auteurs et des artistes qui ne sont pas dans le top 10. On va ouvrir le théâtre et construire des ponts avec Montpellier Danse et l'Opéra et différentes institutions. On a ouvert beaucoup de fronts, il y a beaucoup à construire.
Hommage à Richard Mitou, directeur de l'École nationale supérieure d'art dramatique, ENSAD, de Montpellier. Richard Mitou, 45 ans, est décédé le 3 janvier dernier. Ancien élève de l'École de Montpellier, comédien et metteur en scène, il a succédé le 1er janvier 2013 à Ariel Garcia Valdés. Le président de Montpellier Agglomération adresse ses profondes condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu'aux étudiants de l'ENSAD et salue la qualité de cet artiste à part entière.
Mare Nostrum, à partir du 1er février. Bienvenue à bord de la station Odyssée. L'aquarium Mare Nostrum présente une nouvelle exposition baptisée Mission Odyssée. Embarqués à bord d'une station sous-marine et dans la peau de véritables explorateurs des océans, les visiteurs sont invités à découvrir l'écosystème vivant dans les eaux du Pacifique, entre réel et imaginaire.
Actuellement en mission d'étude, la station sous-marine Odyssée se trouve dans les eaux de l'océan Pacifique, au large des côtes des îles Galapagos. Elle rassemble des plongeurs scaphandriers, des photographes, des scientifiques et des chercheurs, dont le but est de mieux connaître et comprendre la biodiversité marine. Le visiteur est invité à rejoindre l'équipage et à participer à 4 missions.
Dans cet espace de 300 mètres carrés, nous avons reproduit l'intérieur d'une station scientifique sous-marine futuriste, explique Bernard Rayac, directeur de l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération. C'est l'occasion de faire prendre conscience aux visiteurs du formidable potentiel de découverte que les fonds marins possèdent. En effet, 95% de nos océans restent encore à explorer. Les visiteurs devenus explorateurs d'océans sont amenés à observer l'environnement sous-marin qui les entoure à travers les hublots de la station. Un procédé novateur, mêlant à la fois des animaux réels et des projections virtuelles, leur donnera l'impression d'être réellement immergés en plein milieu de l'océan, précise Bernard Rayac. Ils vont ensuite à la rencontre d'espèces encore peu connues à bord d'un module d'exploration sous-marine baptisé Explorer 3D. Puis, dans un laboratoire reconstitué, ils en apprennent davantage sur les dernières avancées scientifiques. Des missions scientifiques de ce type ont notamment permis de découvrir que les méduses sont constituées d'un collagène, aujourd'hui largement utilisé pour fabriquer des crèmes anti-rides, ajoute Nicolas Irel, responsable aquariologie et programme de l'aquarium Mare Nostrum.
À l'occasion de l'ouverture de ce nouvel espace, l'aquarium Mare Nostrum a accueilli 40 nouvelles espèces originaires de l'océan Pacifique. Avant d'être plongés dans le grand bain, ces nouveaux animaux ont bénéficié d'une période d'acclimatation de quelques semaines dans des bassins spéciaux, précise Nicolas Irel. À la manière du commandant Jean-Yves Cousteau, grand explorateur du XXe siècle, l'exposition Mission Odyssée permet à tous les aventuriers de partir à la découverte de nouveaux horizons marins.
Et retrouvez plus d'informations sur montpellier-aglo.com/marenostrum.
40 nouvelles espèces marines à découvrir. Gros plan sur 4 des nouvelles espèces accueillies à l'aquarium Mare Nostrum dans le cadre de l'exposition Mission Odyssée qui surprendront petits et grands visiteurs.
Le poisson-ange à barre blanche, le meilleur ami des requins. À l'occasion des périodes de migration, les requins marteaux s'approchent volontairement des côtes pour subir un déparasitage. Il est assuré par de petits poissons comme les poissons-anges à barre blanche qui grignotent les petits parasites présents sur la peau de ces requins et nettoient les éventuelles blessures. Très coopératifs, les requins marteaux se mettent sur le flanc à leur arrivée pour signifier aux poissons-anges qu'ils sont disposés à subir ce nettoyage en règle.
La crevette menthe voit la vie à 360 degrés. Ces crustacés possèdent l'un des systèmes visuels les plus sophistiqués de tout le règne animal. La crevette menthe est dotée de deux yeux pivotants, indépendants l'un de l'autre, lui permettant de voir à 360 degrés. Leur capacité à percevoir les couleurs est également exceptionnelle, puisque chacun de ces yeux possède d'une douzaine de photopigments, quand celui de l'homme en possède seulement trois.
Le requin cornu, mangeur de crustacés. Vivant la plupart du temps au fond de l'océan, le requin cornu se déplace lentement et se nourrit de mollusques et de crevettes. Il dispose de muscles branchiaux, lui permettant de respirer tout en restant immobile, ce qui n'est pas le cas des autres requins pélagiques, obligés de se déplacer pour faire passer l'eau dans leurs branchies et en extraire ainsi l'oxygène.
Le Batinum géant, un cloporte de taille. C'est le plus grand cloporte du monde. Le Batinum géant mesure jusqu'à 50 cm de long et peut peser près de 2 kg. Il vit principalement dans le golfe du Mexique et les Antilles, mais aussi dans l'océan Indien, entre 200 et 2000 mètres de profondeur. C'est un charognard qui se nourrit principalement de cadavres d'animaux tombés dans les profondeurs et d'invertébrés.
Plus de vidéos, découvrez la mission Odyssée et les nouvelles espèces de cette grande exposition dans la rubrique Mon Aglomag sur montpellier-aglo.com.
Un nouvel élan à La Chapelle. Au cœur de la cité jolie, La Chapelle programme des spectacles de danse, de musique et des performances contemporaines. Elle mène aussi de nombreuses actions culturelles qui contribuent au décloisonnement du quartier. Son directeur, Étienne Schwartz, se lance aujourd'hui dans d'ambitieux projets avec une équipe renforcée et un nouveau site web.
12 ans après son ouverture dans une église désaffectée au cœur de la cité jolie, La Chapelle a ressenti le besoin de se relancer. L'histoire de cette salle n'a pas été un long fleuve tranquille, se souvient Étienne Schwartz, fondateur du lieu. Mais ensemble, nous avons réussi quelque chose d'unique. Pour preuve, le succès des guinguettes gitanes, les jeudis soirs, où l'association des femmes gitanes prépare et sert des repas aux spectateurs et artistes de La Chapelle. Nous en avons été à l'origine, puis l'association a pris son autonomie, explique Étienne Schwartz. Au niveau artistique, La Chapelle s'est imposée comme un lieu de création résolument contemporain et très convivial, où artistes et spectateurs dialoguent dans des rencontres ou au bar-restaurant. Mais cette année, Étienne Schwartz a choisi de se remettre en question. J'ai demandé aux membres du bureau de l'association de réfléchir à de nouvelles actions et orientations, explique-t-il.
Si particulier au lieu, le lien avec la communauté gitane est maintenu. La Chapelle prévoit une veillée mensuelle avec les familles du quartier, ainsi qu'un accompagnement à la professionnalisation des musiciens gitans. La musique gitane s'intégrera aussi dans la programmation axée sur les musiques nomades, avec celles venues d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud ou du Rajasthan. Deux autres thèmes viendront structurer la programmation, les écritures sonores contemporaines dont Étienne Schwartz est un fin explorateur et les performances mêlant danse et art numérique. Côté partenariat, La Chapelle se tourne vers le monde scientifique et les entreprises du numérique comme IDSEN spécialisées dans les projections vidéomapping.
Sur le plan de l'éducation artistique, La Chapelle accueille de nombreux enfants venus des crèches, écoles et collèges voisins. Elle complète cette année avec des veillées participatives ouvertes aux classes artistiques des lycées et se propose d'intervenir dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui va concerner Montpellier dès la rentrée 2014. Pour mener à bien tous ces projets, une personne a été embauchée. Côté communication, un nouveau site plus ergonomique a été créé. Beaucoup de changements donc, mais pas pour les tarifs qui restent à 12 euros l'entrée et 10 euros avec le pass aglo.
Et retrouvez plus d'infos sur lachapelle-jolie.fr.